devant toi, Seigneur. Je répands mon âme devant toi, Seigneur. Je répands mon âme, ô mon Dieu. Je suis à toi, je me confie en toi. Conduis-moi dans la voie de la vérité.
Chers amis auditeurs, bonjour. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Voici l'émission En sa présence. En sa présence est une émission du Centre biblique. Au micro, votre serviteur Danny Wichai. Nous avons la joie de pouvoir encore une fois partager la parole de Dieu. Nous méditons sur le deuxième chapitre du prophète Ésaïe au verset 3e. Des peuples nombreux s'y rendront et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison des dieux de Jacob, afin qu'il nous instruise de ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car des Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Je voudrais donc, chers amis auditeurs, vous présenter une pensée qui me touche au plus profond de moi-même. Et cette pensée se résume en ces paroles. « Venez et montons à la montagne de l'Éternel. » Il est extrêmement bénéfique pour notre âme de s'élever au-dessus de ce présent monde mauvais pour aller vers quelque chose de plus noble et de meilleur. Les soucis de ce monde et la séduction des richesses dont parle le Seigneur Jésus dans la parabole du semeur ont fait vite d'étouffer tout ce qui est bon en chacun de nous. Nous devenons alors inquiets, découragés et peut-être orgueilleux, charnels aussi. C'est pourquoi il est question dans ce texte de monter, de monter. Monter signifie sortir de la bassesse et aller vers la hauteur, vers les hauteurs, pourrait-on dire. Savez-vous qu'au fond de certaines vallées profondes et humides, les habitants ne sont pas en bonne santé, car l'air se charge de toutes sortes de pestilences. En revanche, vers les sommets, vous trouvez des montagnards à la constitution plus solide, car ils respirent un air plus frais en provenance de hautes sphères. Sortons donc des vallées de péché, de vanité de ce monde, car vanité de vanité, disait l'Ecclésiaste, tout est vanité. Le péché nous rend malades, malheureux, misérables. Et vous savez, la Bible dit dans Romains, au chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Venez, montons à la montagne de l'Éternel. Il serait bon si les habitants des vallées pouvaient fréquemment quitter leurs demeures environnées de marais infectés, des moustiques, pour aller se ressourcer dans l'air vivifiant qui souffle au sommet de la montagne. Je vous invite donc à une telle randonnée. Puisse l'Esprit de Dieu nous aider, mais vraiment nous aider à quitter les pestilences de l'anxiété, de la tristesse, des maladies qui s'amassent et croupissent au fond des vallées de cette terre, pour nous faire monter vers les sommets remplis d'espérance, de joie et de bonheur. Que le Saint-Esprit rompe les cordes qui nous gardent attachés ici-bas et qu'il nous aide à nous élever. Montons, s'il vous plaît, chers auditeurs, venez, montons à la montagne de l'Éternel. Remarquez qu'il est clairement fait mention du lieu où il faut monter, à la montagne de l'Éternel. Ce n'est pas à un autre endroit quelconque. Beaucoup de gens de ce monde cherchent à s'élever, dans un domaine ou dans un autre, de bien des manières, par des moyens honteux, par exemple le vol des deniers publics, pour devenir riche et se hisser au rang social des riches de ce monde, ou par la violence, des assassinats, des meurtres d'une personne dont on est jaloux, par exemple, pour prendre sa place ou son poste, ou par l'empoisonnement de ceux qu'on hait et qui nous font ombrage. Vous vous souvenez de l'histoire de Haman et Mardochée? La haine d'Aman contre les Juifs, et en particulier contre Mardochée, l'a amené à fomenter un coup contre ce dernier. Mais Mardochée était un Juif, Donc, un homme appartenant au Dieu vivant, et ce Dieu vivant a de jouer le coup. Ainsi, on recourt à des coups bas pour connaître une certaine ascension. Que dire de ces nombreuses personnes qui recourent à la sorcellerie, à la magie, à l'occultisme et aux sciences secrètes pour pouvoir à tout prix obtenir une promotion ou un grade dans l'armée, par exemple, et que sais-je encore? Non, non, messieurs, non, madame, non, mon frère, non, ma sœur, non, ami auditeur, l'élévation ne vient pas de l'Est, ni de l'Ouest, ni du désert, car Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Parole du psaume 75, versets 6 à 7. S'il vous plaît, montons à la montagne de l'Éternel. Dans la Bible, il nous est parlé de certaines montagnes, et ici, je me propose de vous en parler de quelques-unes qui sont très symboliques. Alors, commençons par Genèse au chapitre 22. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 3. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Il répondit « Mais voici !» Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le quatrième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, « Vous restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. » Sans m'attarder sur les détails de cette histoire, je m'empresse d'indiquer qu'Isaac dans cette histoire est l'image du Seigneur Jésus, tant dans sa relation de fils unique et bien-aimé par rapport à Abraham, son père, que dans sa condition du sacrifice qui devait être offert en holocauste à Dieu. Et ceci renvoie dans le Nouveau Testament, où nous pouvons trouver beaucoup d'exemples concernant le Seigneur Jésus, et nous pouvons le considérer, lui, par rapport à quatre montagnes où il s'est retrouvé. D'abord, nous pouvons le voir à Gethsémani. Dans Matthieu au chapitre 26, du verset 36e jusqu'au verset 38e, nous pouvons trouver comment il lutta avec la pensée d'aller à la croix, comment il fut rempli de tristesse. Et je voudrais juste lire quelques versets. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 26. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Gethsémani, c'est la tristesse qui caractérise ce lieu où le Seigneur mangea les herbes amères à la pensée qu'il allait être fait par son Dieu péché pour nous afin que nous soyons en lui justice des dieux. C'était terrible. Un lieu où, comme on voit chez les Juifs, lorsqu'ils devaient manger la Pâque, ils devaient le faire avec des herbes amères, on voit que Gethsémani, pour le Seigneur Jésus, comme le mot l'indique, était un pressoir. La pression de la croix était sur lui, telle que son âme était dans l'amertume. Là, c'est une première montagne où nous pouvons monter pour le considérer. Considérer cet homme qui s'est dévoué pour la cause de notre salut. Ensuite, nous pouvons le voir sur un autre endroit, c'est dans Jean chapitre 19e, versets 13 jusqu'à 16. Pilate, après avoir entendu ces paroles, amena Jésus dehors et s'assit au tribunal, au lieu dit le pavé et en hébreu Gabata. Soit dit en passant, Gabata signifie terre ou éminence. Mais en fait, il s'agit de la terre. Nous avons été tirés de la poussière, de la terre. C'était la préparation de la Pâque. Et environ, dit l'Écriture, la sixième heure. Et il dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, à mort, à mort! Crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors, il leur livra Jésus pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Ce lieu où Pilate monta pour s'asseoir, afin de prononcer le jugement inique et indigne par lequel le Fils de Dieu a été condamné, oui, ce lieu, Gabatha, où le Seigneur de gloire a été admis comme un objet de dérision, comme un objet sans valeur qu'on voue à la destruction. Ce lieu rappelle les coups et les fouets qu'il a reçus et qui l'ont fait gémir. Des gémissements qui vont au-delà de l'amertume et de la tristesse de Gethsémané. Oui, le Seigneur a reçu, de la part des hommes, il a reçu la violence, il a subi une telle violence contre lui que son corps était, nous pouvons le considérer, à cet endroit. Troisièmement, nous pouvons considérer aussi le Seigneur à Golgotha. Et Golgotha, c'est presque le même endroit que le mont Morija, où Abraham devait offrir son fils Isaac, selon Genèse 22, le texte que nous avons lu. Jean chapitre 19, versets 17 jusqu'à 18. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville vers le lieu appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et avec lui deux autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Golgotha, c'est un lieu des morts. Le mot Golgotha veut dire crâne. Il semblerait qu'il y avait à cet endroit plusieurs crânes. C'est un lieu de mort. C'est le lieu de supplice, du sacrifice suprême où il expia nos péchés et il nous obtint une rédemption éternelle. Oui, Golgotha, c'est le lieu où il a alors accompli cette condamnation, cette terrible condamnation qui a été prononcée contre sa personne par Pilate, mais une condamnation réclamée à corps et à cri par le Juif. Et là, nous pouvons le considérer comme celui qui a pris notre place, notre substitut. C'est nous qui méritions la mort. Le prophète Ésaïe, dans son livre au chapitre 53, dit ceci, « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Enfin, nous pouvons considérer le Seigneur sur une autre montagne. C'est la montagne des Oliviers. Cette montagne se trouve à Béthanie, selon Luc chapitre 24. À partir du verset 50 jusqu'à la fin, vous pouvez voir que le Seigneur, après sa résurrection, a amené ses disciples sur cet endroit et c'est là qu'il leur a dit au revoir. Mais on revient à Matthieu chapitre 28, verset 16 jusqu'au verset 18. Les onze allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Verset 18. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Le mont des Oliviers, c'est le mont où nous avons la preuve de la résurrection du Seigneur Jésus, le lieu de sa présence physique et matérielle. Les apôtres vont le rencontrer à cet endroit et ils vont l'adorer. Ici, nous en arrivons à la plus haute considération du Seigneur, c'est-à-dire l'adoration. Nous pouvons maintenant, sur cette montagne, le considérer et l'adorer en vertu de sa majesté, car il affirme « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Le Seigneur Jésus, le lieu de l'adoration. Oui, chers amis auditeurs, nous pouvons nous élever pour trouver un objet précieux auquel notre esprit, notre âme peut s'attacher, Jésus-Christ. Celui qui a payé de sa vie pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu et pour que nous puissions obtenir ce si grand salut pour toujours. Le mont des Oliviers nous donne l'occasion de nous élever pour pouvoir lui apporter notre amour, nos affections. Mais ce n'est plus un lieu terrestre maintenant. Le lieu où nous adorons le Seigneur, c'est un lieu spirituel. Car dans Jean au chapitre 4, verset 21, puis le verset 23 jusqu'au verset 24, dans son entretien avec la femme samaritaine, le Seigneur affirme ceci, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne qu'il faille adorer. Car Dieu est esprit, Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Chers amis auditeurs, Dieu nous invite à nous élever pour apporter au Seigneur, étant détachés de toutes les considérations humaines, de toutes les considérations de cette terre, mais lui apporter nos esprits en tant qu'adorateurs. Le Seigneur attend cette adoration qui émane de nos cœurs sincères, de nos cœurs purifiés par son sang. Le Seigneur attend de chacun que nous puissions abandonner ce qui nous garde encore attachés aux choses de ce monde. Oui, détachons-nous des bassesses de ce monde, du péché, car le péché nous avilit. Le péché est toujours quelque chose d'horrible devant Dieu. Mais en nous approchant de Jésus-Christ, en l'acceptant comme le seul sacrifice, le seul holocauste que Dieu a agréé, en l'acceptant comme notre seul sauveur, étant purifié par son sang, le sang de sa croix, Dieu nous agrée. Dieu nous accepte. Je voudrais vous inviter à faire cette randonnée avec moi, à pouvoir, oui, quitter le fond des vallées. Le fond des vallées où il y a toutes sortes de maladies. Les moustiques nous piquent, les moustiques de souillure de ce monde, les moustiques de l'immoralité, les moustiques de la méchanceté, de l'incrédulité, les moustiques du mensonge. Toutes ces moustiques sont une calamité pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Cher ami auditeur, as-tu décidé de t'élever? As-tu décidé de monter sur cette montagne de Dieu? Quand on monte, on reçoit une espérance vivante, car le Seigneur Jésus n'est pas resté dans la tombe. Job disait, « Mon Rédempteur est vivant. » Il est vivant. Il n'est pas resté dans la tombe. J'ai entendu dire que le président zimbabwéen, Robert Mugabe, qui a été donné plusieurs fois pour mort par certaines rumeurs dans son pays, disait, écoute, moi j'ai vaincu le Christ, car le Christ est mort une fois et il est ressuscité, mais moi je suis mort plusieurs fois et je suis ressuscité plusieurs fois. C'est une illusion, c'est une manière profane de parler du Seigneur de gloire. Il est mort, il est ressuscité et personne d'autre dans ce monde ne pourra passer par ce chemin. Mais il est l'unique qui nous a frayé ce chemin. Il est le chef de cette nouvelle création des dieux. Le chef de la nouvelle humanité, tous les hommes qui ont mis en lui leur foi, trouvent en lui le véritable sauveur. Et à sa suite, nous ressusciterons. Quoique mort, nous ressusciterons. Telle est la vérité de l'Écriture, la vérité qui fonde l'espérance chrétienne. Dans 1 Corinthiens au chapitre 15, il est dit, « Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait morte, notre foi serait vaine. » Et nous serions encore dans nos péchés. Mais maintenant, Christ est ressuscité. Alléluia. Aujourd'hui, nous pouvons encore redire avec assurance que le Seigneur Jésus est ressuscité. Que nous ne sommes pas de ceux de ce monde qui sont enlacés dans les ténèbres du désespoir. Dans notre pays, nous sommes habitués aux défaites. Nous sommes habitués aux échecs. Mais il est bon que nous puissions entendre ce message qui nous fait voir la victoire que le Seigneur nous a acquise à la croix. Montons sur cette montagne. Allons à la montagne de l'Éternel. Allons pour pouvoir être remplis d'espérance, remplis de confiance et nous dire, un jour, nous rentrerons dans la gloire. Puisqu'aujourd'hui, le Seigneur est monté au ciel et il nous a promis de venir nous chercher. Nous rentrerons dans la gloire. Nous allons expérimenter ce parfait bonheur qu'il a promis à tous ceux qui le suivent, tous ceux qui ont mis en lui leur confiance. Chers amis, voilà le message que le Seigneur veut que vous puissiez entendre pour que vous marchiez triomphant. Dieu notre Père, tu nous as donné Jésus-Christ, l'espérance de la gloire. Donne-nous par lui de nous élever, car l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation véritable vient de toi. Or, en le ressuscitant d'entre les morts, tu as voulu nous élever avec lui. Tu nous as fait asseoir avec lui maintenant dans les lieux célestes. Libère nos esprits des pesanteurs de ce monde, du péché qui nous enveloppe facilement, et qu'ainsi, étant libérés, nous puissions marcher tout en étant joyeux et aspirer aux choses qui sont en haut où Christ est caché. Et nous savons que quand il paraîtra, nous paraîtrons avec lui et nous régnerons avec lui. C'est en son nom que je te prie que tu fasses un travail de grâce profondément dans les cœurs des uns et des autres qui ont suivi ce message. Amen. Avez-vous besoin de contact au sujet de cette émission? Eh bien, vous pouvez appeler Danny Wechai, votre serviteur.
Ta présence, humblement Seigneur, nous voici prosternés, nous t'offrons nos vies en sacrifice vivant, nous levons nos mains pures, nous sanctifions ton nom, nous voulons te contempler, oh Seigneur, devant ton autel, en ta présence, humblement Seigneur, nous voici prosternés, nous t'offrons nos vies. En sacrifice vivant, oh, nous levons nos mains pures, nous sanctifions ton nom, nous voulons te contempler. Seigneur,